Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition consacrée à la mer Rouge et aux enjeux stratégiques qui s'y rattachent entre guerre au Yémen, lutte d'influence et bras de fer entre les pays de la péninsule arabique. Une nouvelle géopolitique régionale se dessine. Désengagée dans les années 90, les pays du Golfe font à nouveau montre de présence active depuis quelques années sur le littoral occidental de la mer Rouge, voie commerciale incontournable qui voit passer les deux tiers du commerce maritime mondial. Entre eux, les États riverains entretiennent une méfiance extrêmement forte. Égypte, Soudan, Érythrée, Djibouti, Somalie, Arabie Saoudite, Yémen, sous l'œil de ceux qui disposent d'une base dans la corne de l'Afrique, américains, français, japonais, chinois, émiratis. Sans compter la Russie, de plus en plus présente elle aussi, regard sur les nouveaux enjeux géopolitiques autour de la mer Rouge avec nos invités. Sonia Le Gourielec, maître de conférence à l'Université catholique de Lille, enseignante à Sciences Po. Bonjour.
Bonjour.
Gérard Prunier, consultant indépendant, chercheur émérite au CNRS et membre de l'Atlantic Council. Bonjour.
Bonjour.
Et François Frison-Roche, chercheur au CNRS, ancien directeur du projet Aide à la transition démocratique au Yémen au sein de l'ambassade de France. Bonjour.
Bonjour.
La mer Rouge, une mer intracontinentale de 450 000 km² qui relie l'Afrique du Nord au Moyen-Orient. Au nord, le canal de Suez donne accès à la Méditerranée. Au sud, le détroit de Bab el-Mandeb est une autre zone névralgique qui relie la mer Rouge au golfe d'Aden. L'Égypte redoute toute atteinte à les libertés de circulation dans le détroit qui ferait ressentir ses effets sur le canal de Suez. Israël et la Jordanie sont aussi directement concernés, ainsi que le Soudan et l'Érythrée, dont les régimes ont besoin de soutien financier extérieur pour se maintenir. La République de Djibouti, qui accueille des bases américaines, françaises, japonaises et chinoises, occupe un verrou stratégique face au Yémen. La guerre civile qui s'y déroule menace la stabilité de la péninsule arabique et celle de la Corne de l'Afrique. Dans la guerre du Yémen, on voit le pays arabe le plus riche du monde, l'Arabie Saoudite, bombarder le pays arabe le plus pauvre. On voit aussi les Émirats Arabes Unis y être très actifs. Sur les rives de la Corne de l'Afrique, pas moins de 9 bases militaires sont recensées qui, en dehors de Djibouti, sont situées en Somalie et en Érythrée. Première question, comment expliquer ce réveil des pays de la péninsule arabique dans le pourtour de la mer Rouge? Quel état des lieux peut-on faire des rapports de force en présence et quelles conséquences cela a-t-il? Gérard
oui,
Prunier.
Je pense que ça me vient plutôt en arabe, al-fitna al-kabira, la grande querelle, existait déjà avant la période extrêmement récente. En fait, c'est une montée, une graduation pour en arriver à une situation de guerre ouverte. Pas sur la totalité du territoire, mais avec l'implication d'endroits qui, soi-disant, ne font pas partie du conflit. Par exemple, les bombardements du Yémen effectués depuis l'Érythrée, alors que l'Érythrée n'est évidemment pas partie prenante dans la guerre, mais puisqu'il y a une base émiratie sur son sol, les Émiratis étant maîtres chez eux, font ce qu'ils veulent, donc ils bombardent par exemple le Yémen. Et ils le font d'ailleurs pas de la même manière que les Saoudiens. Parce que là aussi, pour que rien ne soit simple et un peu plus compliqué, les Saoudiens et les Émiratis sont alliés, mais ils ne font pas la même chose et pas au même endroit. C'est toujours vis-à-vis du Yémen, mais ils n'ont pas les mêmes buts de guerre, ils n'ont pas le même modus operandi. Donc on se retrouve dans une situation, ça me rappelle un petit peu le mot de Winston Churchill à propos de l'URSS après la Seconde Guerre mondiale. Il a dit « c'est un mystère enveloppé dans une énigme et qui est rempli d'incertitudes ». Et on est là dans une série d'empilements qui sont extrêmement difficiles à désemboîter les uns des autres.
François Frison-Roche.
Tout à fait. Je crois que pour vos auditeurs, il est important qu'ils sachent qu'on est dans une zone éminemment stratégique. C'est vrai que on le savait. Si ces bases militaires existent depuis fort longtemps, c'est qu'un certain nombre de puissances ont estimé que cette zone était stratégique. Mais il y a maintenant de nouveaux acteurs qui veulent notamment imposer leur hégémonie régionale. Que ça soit l'Arabie Saoudite, que ça soit les Émirats, ils veulent en quelque sorte à la fois garantir la sécurité de cette zone pour apparaître et pouvoir exister sur le plan international. Ils veulent aussi indirectement bénéficier de l'aide de certains pays. La Chine est très impliquée d'une certaine manière, car elle veut protéger ses investissements considérables dans l'Est de l'Afrique. la Russie ne va pas tarder à, elle aussi, vouloir revendiquer une place.
Elle a déjà commencé,
oui, la Russie. Bien sûr, mais elle se souvient qu'à une époque, le Yémen du Sud, la République populaire et démocratique du Yémen, était sous sa coupe. Et qu'il n'y a pas de raison pour une grande puissance comme la Russie de quitter une zone ou de ne pas s'intéresser à toutes les zones, surtout celle-ci, puisque, comme vous disiez, un tiers du commerce maritime mondial passe par Bab el-Mandeb. Donc voilà, c'est une zone qui est en train d'apparaître comme essentielle à un certain équilibre, mais surtout à des, comment pourrais-je dire, des revendications hégémoniques, car il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un conflit sous-jacent qui impose de tenir cette zone, c'est le conflit entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. L'Iran est en quelque sorte hégémonique dans la zone du détroit d'Hormuz, évidemment que de l'autre côté, l'Arabie Saoudite et les Émirats veulent se garantir une porte de sortie, si je puis dire, pour leur énergie, leur flux énergique qui alimente aussi bien l'Europe que l'Asie, et que finalement, Bab el-Mandeb et les pays qui entourent cette zone sont essentiels à leur sécurité régionale. Et évidemment, les grandes puissances, entre guillemets, se disent qu'il va falloir qu'ils surveillent tout ça parce que ils sont directement concernés, même si c'est à des milliers de kilomètres des pays respectifs.
Sonia Legourialec.
Oui, alors peut-être aussi rappeler que la présence des pays du Golfe dans la Corne de l'Afrique n'est pas tout à fait nouvelle. Il y a peut-être un réveil, mais historiquement, le royaume de la reine de Saba s'étendait jusqu'au Yémen, que l'Arabie Saoudite est présente depuis très longtemps. L'un des plus riches éthiopiens est éthio-saoudien, qui a, au moment de l'indépendance de Djibouti, c'est l'Arabie Saoudite qui a beaucoup soutenu justement le pays avec beaucoup d'aide financière pour démarrer en tant que nouvel État. Et pour moi, ces dernières années, il y a vraiment eu une temporalité en quatre temps. Il y a eu effectivement le lancement par George W. Bush de la guerre globale contre le terrorisme et donc la base américaine à Djibouti, première base sur le continent, pour éviter que des terroristes partent de l'Afghanistan, du Pakistan et reviennent sur la Corne de l'Afrique. Vous avez eu ensuite la lutte contre la piraterie, donc 2005-2011, il y en a encore, mais le maximum des attaques terroristes a été atteint en 2008, je crois. Et donc là, vous avez un retour de tous les pays du monde, de l'Inde à la Chine, en passant par la Russie, la mission Atalante de l'Union européenne, les États-Unis, etc., pour lutter contre la piraterie et l'installation même d'une base japonaise à Djibouti, ce qui est exceptionnel. Et après, un élément effectivement aussi très important, enfin les deux derniers éléments, c'est la guerre au Yémen, bien sûr, puisque du coup, les pays du Golfe prennent pied dans la Corne de l'Afrique, essayent d'aligner, de faire en sorte en tout cas que les pays de la Corne s'alignent sur eux, d'où le fait que beaucoup de pays de la Corne de l'Afrique ont rompu des liens avec le Qatar, avec l'Iran, plus ou moins pour des prétextes parfois étonnant, mais bon, c'était vraiment pour suivre l'Arabie Saoudite. Et puis surtout, en fait, la mer Rouge est une autoroute commerciale et elle est au cœur de l'initiative chinoise des nouvelles routes de la soie. Et donc, on a une internationalisation de la mer Rouge depuis quelques années avec cette présence chinoise, les nombreuses infrastructures en construction tant du côté, effectivement, du Sinaï, vous avez beaucoup de projets de villes nouvelles, du Sinaï jusqu'au Bab el-Mandeb, et tout le monde a intérêt à maîtriser, à contrôler cette zone. Et c'est vrai que finalement, ces derniers temps, en relisant un petit peu tout ce qui se faisait à la place des Émirats, en regardant les différentes cartes, l'Arabie Saoudite, la Chine, etc., je me suis plutôt demandé où sont les Français, les Européens, les Américains.
Alors les Français, ils sont toujours à Djibouti ?
Oui, mais qu'est-ce qu'on fait là en ce moment justement pour contrôler la mer Rouge ou pour avoir voix au chapitre sur une route qui est très importante aussi pour nous ? C'est une route maritime qui va vers l'Europe. Que fait-on ?
Que fait-on ? Peut-être ça mérite que les uns et les autres vous rebondissiez sur cette question. Un autre événement que vous n'avez pas mentionné, hein, même si tout ça est bien détaillé, on peut les reprendre. Lutte contre le terrorisme, lutte contre la piraterie, la guerre au Yémen, autoroute commerciale avec la Belt and Road Initiative chinoise. Il y a tout de même ce regain d'intérêt sur la Corne de l'Afrique. C'est la sortie des États-Unis de l'accord avec l'Iran, avec Téhéran qui menace de bloquer le détroit d'Hormuz de l'autre côté de la péninsule arabique, donc en face de l'Iran, ce qui a tout de même donné généé une prise de conscience de l'importance de ce détroit de Bab el-Mandeb. François Fraisson-Roche.
Oui, je voudrais revenir juste sur le fameux que fait-on, nous, la France? Eh bien, j'allais dire que d'abord, notre présence sur place, c'est une présence historique. Notre base à Djibouti, c'est un certain héritage. On essaye d'être là pour se montrer, pour essayer de s'informer, de jouer un petit rôle. Mais notre champ prioritaire n'est pas dans cette zone. Notre champ prioritaire, c'est quand même l'Afrique subsaharienne. Et on ne peut pas intervenir sur tous les terrains. Afrique subsaharienne, Moyen-Orient avec la Syrie, ce qu'on a essayé de faire sur place, et puis Djibouti ou le détroit de Bab-el-Mandeb. Donc j'allais dire qu'on déploie les moyens que nos capacités financières nous permettent, et on sait très bien que ces capacités financières sont relativement restreintes, donc on ne peut pas faire grand-chose si ce n'est essayer d'exister par rapport à des pays beaucoup plus puissants et beaucoup plus financièrement importants. Finalement, la France se dit, on ne peut pas intervenir directement, mais on a des alliés, parce que l'Arabie Saoudite et les Émirats sont les alliés de la France. Ils sont en train de construire des infrastructures aéroportuaires. Si nous pouvons les utiliser le moment venu, si quelque chose se passait, ben finalement, pourquoi pas nous faire payer ces pays, alors que nous, nous n'avons plus les moyens d'être véritablement un acteur majeur dans cette zone. Alors, donc voilà, pour répondre à la question, que fait-on sur place?
Je suis sur la question de la France avec les Émirats Arabes Unis, politique d'influence, le Louvre à Abu Dhabi, donc on est sur un autre registre.
Oui, on a même une base militaire à Abu Dhabi.
Voilà, donc la France, là aussi, alors là on se situe de l'autre côté, toujours du détroit de Bab el-Mandeb, de l'autre côté de la péninsule arabique, donc présence tout de même française là aussi.
Oui, une présence française quand même importante. Quel est le pays qui peut avoir une base à Djibouti, une base à Abu Dhabi? En Europe, on est le seul pays finalement à avoir cette capacité. Maintenant, est-ce que c'est suffisant ? Peut-être pas, mais il ne faut pas oublier que quand même la France est un des membres permanents du Conseil de sécurité et elle se doit quand même d'exercer au moins visuellement une certaine présence dans des zones chaudes qui risquent de devenir brûlantes à terme.
Sonia Le Gourilec.
Oui, après, il faut pas se leurrer, la présence française à Djibouti, elle est depuis 1977, depuis l'indépendance du pays. Néanmoins, il y a eu une baisse énorme. On peut vraiment parler d'un déclin relatif de la présence française sur place. Ce qui est dommageable, puisqu'il y a une demande de France. Bon, alors c'est avec Djibouti, c'est je t'aime moi non plus, mais on est dans une période où il y a une demande de France. Notre présence a beaucoup baissé et surtout, j'ai l'impression effectivement, on vise plutôt le Sahel, on est plus présent dans le Sahel, mais que la Corne de l'Afrique, on ne voit que Djibouti et les aspects sécurito-militaires. Alors que des pays comme la Chine, comme peut-être les pays du Golfe, ont une vision globale de la région. Djibouti, c'est une porte d'entrée vers une région en pleine émergence. C'est l'Éthiopie, 130 millions d'habitants, une économie qui monte en flèche. Et il faut voir Djibouti comme une porte d'entrée vers tout cela. Et penser la région globalement. Penser à l'intégration économique. Surtout qu'on est dans une période, une opportunité historique où on a un apaisement des relations entre l'Éthiopie et l'Érythrée. On ne sait pas si tout ça va bien se terminer. Il y a encore les problèmes avec la Somalie. Mais on est dans une période où il y a une opportunité historique. Alors le président de la République, Emmanuel Macron, va visiter l'Éthiopie et le Kenya en passant en premier par Djibouti. Est-ce qu'on va, on s'oriente vers une nouvelle politique? Est-ce qu'on va enfin penser la région dans son globalité? Et si on a pas les capacités effectivement économiques de nos ambitions, avec qui peut-on s'allier? Peut-être avec les Européens. Voilà, il y a peut-être quelque chose à faire au niveau européen, je ne sais pas.
Gérard Prenier.
Oui, mais le passage de M. Macron est typique de la réalité de la situation. C'est-à-dire qu'il va passer quelques heures. Il rentre à Djibouti, il en ressort aussitôt. Il va en Éthiopie, il y reste deux heures. C'est un petit peu symbolique. C'est comme la présence militaire française qui est là et qui date pas de 77, puisque c'est une colonie française, et qui date de beaucoup plus.
On a maintenu la présence et le parapluie sécuritaire.
Bon, mais maintenant, c'est devenu quelque chose de symbolique. On est là, pourquoi? Parce qu'on y est là. C'est pourquoi êtes-vous connu? C'est parce que vous êtes fameux. Il n'y a plus vraiment de contenu à ce genre de choses. Et par exemple, l'opération Atalante, si on regarde la lutte contre la piraterie, la marine française n'était pas en pointe par rapport à d'autres. Tout le monde était là. Par exemple, les Indiens ont joué un rôle très important. Ils n'ont pas de base. Ils envoyaient des bateaux depuis l'Inde. Donc, quelque part, la présence de la France est un peu fantomatique.
Alors, la réponse à ma question, réveil de la péninsule arabique sur la mer Rouge en réponse au départ américain de l'accord sur le nucléaire iranien et les menaces iraniennes sur le détroit d'Ormuz, c'est cohérent, François Frizerange?
L'Arabie Saoudite souhaite évidemment compenser ses faiblesses dans le golfe arabo-persique par une présence accrue dans la mer Rouge pour essayer de, j'allais dire, maintenir sa capacité de pilier de la sécurité dans la péninsule. C'est vrai qu'on assiste aussi à une espèce de basculement. Il y avait ce conflit, j'indiquais tout à l'heure, sur Syrie, Irak, Liban, le problème israélo-palestinien. Tout ça se situait au nord de, en quelque sorte, la péninsule. Là, on est en train de voir un glissement vers le sud avec... justement, cette guerre du Yémen, parce qu'il faut y revenir, et on va certainement reparler des divergences, pour l'instant, entre l'Arabie Saoudite et les Émirats.
Oui, qui ne sont donc pas si alliés que cela. Je voulais revenir dessus, parce que vous l'avez dit.
Il y a
dit,
des apparences. Et puis ensuite, on va voir, peut-être d'ailleurs aussi un frein, un règlement global de ce qui se passe au Yémen. C'est que peut-être les deux principaux alliés ne sont pas d'accord sur ce que le Yémen doit devenir. Et donc, on souhaite beaucoup de chance aux représentants de l'ONU, car rien ne pourra se régler sans que, évidemment, cet élément essentiel soit clarifié. Que veut exactement l'Arabie Saoudite? On le sait, mais faut-il le dire clairement? Que souhaitent exactement les Émirats Arabes Unis?
Alors, restons-y quelques instants, si vous voulez bien, pour terminer cette première partie d'émission. La guerre au Yémen, Émirats Arabes Unis sont très présents dans le sud Yémen, et les Émirats Arabes Unis aimeraient beaucoup, finalement, que le sud Yémen se détache du nord Yémen. C'est cela qu'il faut préciser,
oui,
François Frizerange.
Va se poser la question, est-ce que les Émirats souhaitent une scission du Yémen avec un Yémen du Sud? C'est d'ailleurs une situation à retour en arrière aux années 90 quand existaient deux Yémen. Mais à ce moment-là, si le Yémen du Sud allait vers l'indépendance, cela voudrait dire que l'Arabie Saoudite se retrouverait face à un Yémen du Nord, essentiellement peuplé, puisqu'il faut se voir qu'environ 25 millions de la population yéménite habite au Nord, 5 millions simplement au Sud, 25 millions au Nord qui seraient peut-être pas à majorité, mais avec une forte présence zaïdite, donc chiite. Je ne parle pas des Houthis, qui est un clan qui a essayé d'avoir la mainmise sur le Yémen. Mais est-ce que l'Arabie Saoudite peut supporter d'avoir une partition du Yémen? La question devra être clarifiée entre les deux principaux alliés, car les intérêts finalement bien compris des Émirats, c'est d'avoir finalement le contrôle de la côte sud du Yémen. Est-ce que l'Arabie Saoudite autorisera qu'il y ait une partition? Que ce pays soit divisé, c'est un grand classique, il faut mieux diviser pour régner. Maintenant, est-ce que cela va passer par une véritable séparation? À une époque, donc quand j'y étais, ils essayaient de tordre le problème en suggérant une fédéralisation du Yémen. Finalement, une tribalo-fédéralisation du Yémen, car c'est un pays qui ne peut absolument pas répondre aux normes occidentales de ce schéma constitutionnel. Maintenant, après 4 ans de guerre, les choses ont considérablement évolué sur le terrain. Et comme je disais tout à l'heure, je souhaite beaucoup de chance aux représentants de l'ONU pour régler ce problème.
Sur la question du Yémen, Sonia Le Gourielec, Gérard Prunier, une minute pour terminer.
Il y a aussi quelque chose de culturel. Les Saoudiens ne comprennent absolument rien au Yémen. Les Émiratis le comprennent trop bien. Et ils sont au Yémen en train de poursuivre une politique qui se passe des deux côtés de la mer Rouge. C'est-à-dire d'avoir des bases portuaires échelonnées tout le long des rives, parce que de l'autre côté ils s'installent à Berbera, c'est-à-dire au Somaliland, un état intéressant puisqu'il n'existe pas sur le plan international, mais qui existe dans la réalité. Ils s'installent à Bosaso, dans l'autre Somalie. Bon, et ils sont déjà installés en Érythrée. Donc, en fait, on a, dans le cas des Émirats Arabes Unis, une colonisation où il faut remonter aux Grecs ou aux Phéniciens, c'est-à-dire une chaîne de ports avec un hinterland qui les intéresse pas beaucoup.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités, Sonia Le Gourielec, Gérard Prunier et François Frizerange, après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur la mer Rouge. rouge et les enjeux stratégiques qui s'y rattachent, nous retrouvons nos invités. Sonia Le Gourielec, maître de conférence à l'Université catholique de Lille, enseignante à Sciences Po et co-auteur avec Fatia Dazieni d'une note de recherche de l'IRSEM consacrée au Golfe et à la Corne de l'Afrique. Gérard Prunier, consultant indépendant, chercheur émérite au CNRS et membre de l'Atlantic Council. Et François Frison-Roche, chercheur au CNRS, ancien directeur du projet Aide à la transition démocratique au Yémen au sein de l'ambassade de France. Gérard Prunier, on a terminé la première partie de l'émission sur la question de la rivalité des Émirats Arabes Unis et de l'Arabie Saoudite sur la guerre au Yémen. Vous souhaitiez rajouter quelque chose? Après ça, j'aimerais qu'on revienne sur la mer Rouge, le bassin dans son ensemble et comprendre un petit peu quels sont les liens entre les uns et les autres. Gérard Prunier.
La première différence, en dehors de celle que j'avais déjà mentionnée, c'est le fait que les Saoudiens ne sont pas présents du côté africain. Et que les Émiratis non seulement sont présents, mais continuent à étendre leur espèce de réseau avec peu d'intérêt pour l'intérieur des terres. Et puis surtout, ils sont rentrés indirectement en conflit avec la Turquie. Bien sûr, il y a la mer Rouge, mais il faut voir que entre la mer Rouge et l'océan Indien, bon, il y a communication. Et les Turcs sont en train d'étendre aussi tout un réseau de bases militaires, puisque ça s'inscrit dans la grande rivalité de la grande lutte qui déchire le monde musulman depuis 2017, entre le Qatar, la Turquie et l'Iran d'un côté, et de l'autre côté, en flèche, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Et les Turcs prolongent des bases qui sont automatiquement anti-émiratis. C'est d'ailleurs un peu effrayant parce que c'est un petit côté, moi ça me rappelle en tant qu'historien, les guerres balkaniques qui ont précédé la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire on voit déjà qui est de quel côté. La seule question qu'on peut se poser, c'est jusqu'où nous emmène ce chemin.
Alors, la Turquie, on peut préciser juste pour nos auditeurs, c'est le port soudanais de Suakin, qui donc était cédé à Ankara en février 2018. Le financement des travaux de restauration du port et de construction de la base militaire sera assuré par le Qatar. Ce soutien au Qatar de la Turquie et de l'Iran, est-ce qu'on peut parler d'une alliance de circonstances? Est-ce qu'elle peut tenir François Frison-Roche.
Oui, d'une certaine façon, parce que en Iran, vous avez des Perses chiites, la Turquie, le Qatar, ce sont quand même des musulmans sunnites. Mais il y a, pour ce qui concerne notamment la Turquie et le Qatar, cette influence considérable des frères musulmans. Et c'est vrai que la Turquie ne désespère pas jouer toujours ce rôle essentiel qu'elle avait joué historiquement au temps de l'Empire ottoman. Turquie était au Yémen pendant très longtemps. Et elle souhaite évidemment poursuivre cette influence. Erdogan est allé à plusieurs reprises, notamment en Somalie. On est loin de la Turquie. Il n'empêche que voilà un leader qui cherche manifestement à renforcer une influence à la fois historique et en même temps apporter sa solution à des problèmes régionaux. Peut-être qu'il souhaiterait apporter un exemple politique, constitutionnelle, je ne sais pas. Ce qui est important de voir, c'est qu'il y a donc une lutte non seulement entre pays régionaux, mais entre pays qui sont quand même assez éloignés de ce cœur de Bab el-Mandeb. Le Pakistan faisait au départ partie de la coalition de l'Arabie Saoudite et des Émirats. Ils se sont un petit peu retirés, notamment sur le Yémen, parce que le Pakistan s'aperçoit que au nord du Pakistan, il y a des chiites et qu'ils sont près de l'Iran et que donc le Pakistan s'est dit, il est peut-être intelligent de ne pas faire preuve de véritablement présence militaire contre les Houthis qui sont réputés être chiites proches de l'Iran. Donc on voit un retrait. On voit aussi des retraits. Le Maroc vient de quitter la coalition. Vous pourrez se poser la question, pourquoi le Maroc s'est éloigné? Enfin, on voit que cette zone très concentrée autour de Bab el-Mandeb concerne finalement pas mal de pays.
Sonia Le Gourielec.
Ce qui est important, en fait, c'est qu'en ce moment, dans la mer Rouge, vous avez, pour prendre un petit peu le large, on va dire, la mer Rouge, actuellement, représente toutes les transformations du système international. Vous avez toutes les rivalités qui sont en œuvre. Vous avez le conflit sunnite-chiite, vous avez les conflits arabo-israéliens, Turquie-Qatar d'un côté, Arabie Saoudite, Émirats, Égypte de l'autre. Chacun a son mot et vous avez un vrai jeu de go qui est en train de se jouer dans la région. Vous avez un retour des politiques étrangères de type impérial, avec ses rhétoriques et cette envie de retour à un passé glorieux, et donc la Turquie qui rappelle l'Empire ottoman, qui joue beaucoup de cette rhétorique, à la fois en Somalie, à la fois sur l'île de Suakin, qui est juste en face quand même de Jeddah et de la Mecque. C'est physiquement assez intéressant aussi. Et dans ce jeu, les acteurs africains ne sont pas passifs. Ils ont aussi leur jeu à jouer. Et donc, vous avez eu la pacification des relations entre l'Éthiopie et l'Érythrée.
Qui a été faite sous l'égide de l'Arabie Saoudite.
Mais ils ont aussi de l'argent à gagner là-dessus. Et les acteurs de la Corne de l'Afrique tirent parti de ces ressources du système international, aussi parfois pour assurer la survie de certains régimes.
Alors, je voudrais que, puisqu'on parle de réconciliation et de tentative de créer quelque chose qui va permettre à tous ces pays riverains de la mer Rouge de faire circuler davantage les choses, il y a ce qu'a proposé l'Arabie Saoudite en décembre dernier, intention de l'Arabie Saoudite de créer une alliance politique et économique avec 6 pays bordant la mer Rouge. Alors, il y a l'Égypte, Djibouti, la Somalie, le Soudan, le Yémen et la Jordanie, de créer donc une organisation de la mer Rouge et du Golfe d'Aden. Sans, il faut le signaler, l'Érythrée et l'Éthiopie. Alors, on est là sur une intention, mais est-ce que tout ça peut fonctionner, Gérard Pognier ?
C'est un peu un château de cartes. Parce que l'on cherche à le faire, oui, bien sûr, et notamment de la part des Saoudiens, dont l'esprit démocratique n'est pas extrêmement développé, donc d'essayer de rassembler autour d'eux une sorte d'éventail, oui, pourquoi pas. Mais enfin, si on regarde, par exemple, ce qui est au cœur de géographique, c'est-à-dire la paix entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Ça s'est déroulé en théorie avec un parrainage saoudien, mais en réalité dans le bureau de Donald Yamamoto à Washington. Ouais. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que c'est lui qui l'a fait et pas son supérieur hiérarchique, Monsieur Tibor Nagy, qui est le sous-secrétaire d'État aux affaires africaines à Washington. Sonia, tu disais, c'est très intéressant la mer Rouge parce que ça représente toutes les modalités du système et des dysfonctions de ce système.
Oui, bien sûr.
Parce que la position américaine là-dedans, c'est totalement incohérent. Et c'est un monsieur que je respecte beaucoup, qui est monsieur Yamamoto, qui connaît très bien la région, qui a fait tout le boulot. Mais où était le président Trump ?
Monsieur Yamamoto, pardonnez-moi, vous pouvez nous préciser sa fonction exacte ?
Eh bien, il a été à deux reprises sous-secrétaire d'État aux affaires africaines et il est à l'heure actuelle ambassadeur en Somalie. Or, beaucoup des choses que nous voyons se dérouler sous nos yeux sont le résultat de sa main. C'est un homme remarquable qui joue un rôle très au-dessus de sa position hiérarchique. Et ça aussi, c'est typique de notre époque. Depuis quand voit-on un président américain laisser des initiatives stratégiques importantes à quelqu'un qui n'est pas le ministre des Affaires étrangères ou lui-même ? Or, c'est bien ce qui se passe.
Que l'Arabie Saoudite cherche à établir ce que je qualifierais de manière peut-être un peu schématique et méchante de diplomatie du carnet de chèque. Il faut comprendre, l'Arabie Saoudite est un pays immensément riche, elle cherche à avoir une influence régionale, elle cherche à avoir une hégémonie contre l'Iran, ça passe par, j'allais dire, une certaine profondeur territoriale qui s'appuie justement sur ces pays, à la fois de la Corne de l'Afrique, mais ça remonte jusqu'à l'Égypte.
Justement, je voulais y venir.
Eh bien, que peut faire l'Arabie Saoudite pour s'attirer la bienveillance de ces pays ? C'est d'avoir une politique généreuse, je dirais, entre guillemets. Tout le monde comprendra ce que je mets derrière ce mot « généreux ». Car évidemment, à partir du moment où vous apportez de l'argent, eh bien, vous décidez un certain nombre de choses. Le maréchal Sisi, en Égypte, il a beau être le président d'un pays immensément peuplé et un pays historiquement fort, eh bien, s'il n'avait pas l'argent versé par l'Arabie Saoudite, peut-être qu'il ne serait plus président actuellement. Et on peut dire la même chose d'Omar al-Béchir, qui est quand même devant la Cour internationale.
Le président soudanais.
La même chose du président érythréen. Et beaucoup de choses, d'ailleurs, se comprennent par des relations plus ou moins cachées, souterraines. Pourquoi Djibouti n'a pas de bonne relation avec Abu Dhabi ? C'est parce qu'il y a une querelle de personnes, y compris les bonnes relations entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Il faut s'en féliciter, évidemment.
Bien sûr.
Mais jusqu'à quel point ces choses vont durer? C'est vrai que derrière, il y a aussi des intérêts considérables. La Chine a financé le chemin de fer entre Djibouti et Addis Abeba, donc la capitale éthiopienne. La Chine finance un énorme barrage en Éthiopie. C'est un barrage qui pourrait être amené à diminuer le flot.
Le barrage de la Renaissance.
Voilà, le fameux barrage de la Renaissance, mais qui crée énormément de tensions. Car si on veut remplir ce barrage au rythme où il devrait être rempli, cela voudrait dire que l'Égypte ne disposerait plus d'un flot suffisant. Oui, mais il y a une chose très importante, c'est que s'il n'y a pas assez d'eau, c'est tout le bassin du Nil qui va s'enfoncer. Et à ce moment-là, c'est l'eau de mer qui va rentrer. Donc pour l'Égypte, c'est une question de vie ou de mort, ce barrage en Éthiopie. Donc il y a là des problèmes sous-jacents que l'on ne voit pas exactement, mais qui se trouvent néanmoins dans cette zone toujours concentrée de la Corne de l'Afrique. Et cela va certainement aboutir à quelque chose qui risque de nous exploser à la face. Et là, il faudra se poser la question de savoir justement qui a été suffisamment naïf pour croire que cette zone ne doit pas, j'allais dire, bénéficier d'un certain contrôle pour éviter que cette situation dégénère.
Alors, je voudrais qu'on parle, puisqu'on a beaucoup parlé des enjeux géopolitiques autour du détroit de Bab el-Mandeb, voir un petit peu ce qui se passe, et vous l'avez évoqué, François Frison-Roche, les mouvements géopolitiques à l'entrée nord de la mer Rouge. On peut juste rappeler que l'Égypte a cédé les îles Sanafir et Tiran à l'Arabie Saoudite, qui a un projet de pont maritime reliant l'Égypte à l'Arabie Saoudite, et le maréchal Sissi, qui a un projet de mise en valeur du Sud-Sinaï. Donc, tout ça symbolise l'amarrage de l'Égypte à l'Arabie Saoudite et son soutien au leadership saoudien sous la houlette américaine. Tout cela est tout de même assez nouveau. Et l'Égypte qui a, pour l'année 2019, la présidence de l'Union africaine après des années d'éloignement vis-à-vis de l'Afrique. Peut-être l'occasion pour le Caire de promouvoir ses vues sur les dossiers stratégiques que sont les eaux du Nil, vous les évoquez, et la sécurisation de la mer Rouge. En tout cas, on voit bien à travers ce qui se passe aussi dans le Nord, donc tout ce jeu de go qui se poursuit, Arabie Saoudite contre Iran, enfin je veux dire, on est tout de même, si on devait se placer encore au niveau supérieur, j'allais dire, de la pyramide, oui, parce qu'on parle de l'Égypte, mais voilà, il est bien question de cela pour évoquer ce jeu de go. Alors, ce que je voudrais voir avec vous, vous le laissez entendre, François Frison-Roche, finalement, le conflit yéménite, est-ce qu'il en masque d'autres à venir ?
Potentiellement, oui, parce que en fonction de la solution qui sera trouvée au Yémen, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que cette solution est si dure à trouver, c'est qu'on va certainement avoir des résultats. Parce que si les Émirats prennent le contrôle des côtes sud du Yémen, que devient le Yémen ? À ce moment-là, ça voudrait dire que les Émirats contrôlent tout le golfe d'Aden et le sud de la mer Rouge. C'est donc l'arrivée d'un acteur financièrement très fort, militairement assez fort, mais qui a peut-être la faiblesse de n'être que un petit territoire qui se trouve aussi juste en face de l'Iran. Alors, jusqu'où l'Iran ira dans son mixtion au sein de la guerre du Yémen ? Moi, je ne crois pas beaucoup à une présence iranienne forte. Bien sûr qu'ils soutiennent les Zaïdites, appartiennent à la branche chiite. Donc évidemment, l'Iran va soutenir. Mais manifestement, les Émirats souhaitent avoir ce levier au niveau du golfe d'Aden et du Sud pour se protéger d'une certaine manière. Parce que si l'Iran devait porter atteinte aux intérêts des Émirats, eh bien les Émirats pourraient dire « Mais attendez, moi je compte sur place, localement, régionalement, donc aidez-moi ». Donc vous voyez qu'il y a aussi un jeu d'alliance internationale tout à fait intéressant à prendre en compte. Et récemment, vous savez, il y a eu un attentat en Iran. Et l'Iran a bien fait comprendre, parce que l'Iran a accusé évidemment immédiatement l'Arabie Saoudite et les Émirats d'avoir suscité cet attentat. Pour dire, attention, nous aussi on a la capacité ailleurs de pouvoir susciter des attentats. Et évidemment, l'Iran faisait allusion à sa pseudo-présence au Yémen pour susciter un certain nombre de choses en Arabie Saoudite ou aux Émirats. Car il faut voir que en Arabie Saoudite, il y a aussi une minorité zaïdite, comme il y a d'ailleurs tout au long du golfe arabo-persique. Au Koweït, au Qatar, à Bahreïn, il y a des minorités chiites. Pourquoi l'Arabie saoudite est aussi angoissée? C'est qu'aussi toute la zone où on exploite le pétrole est peuplée principalement de tribus chiites. Donc vous voyez qu'il y a aussi, et c'est pour ça qu'ils essayent de confessionnaliser un peu l'antagonisme, notamment au Yémen. Alors que je peux vous dire, quand j'y étais en 2012-2014, il n'y avait aucune confrontation entre les sunnites chaféites du Yémen et les chiites zaïdites. Localement, ils allaient dans la même mosquée, ils priaient ensemble. Il n'y avait pas d'antagonisme. Comment se fait-il que justement, après 4 ans de guerre, on en soit devenu à transformer ce conflit en un conflit confessionnel, alors qu'il n'existait pas sur place? Donc il y a, vous voyez, des volontés extérieures d'intervenir par l'intermédiaire du conflit yéménite dans un conflit qui ne concerne pas les yéménites, qui est ce conflit confessionnel. Donc vous voyez que les choses sont éminemment imbriquées et on ne parle pas désormais de toute l'implication de ces prédateurs et de l'économie de guerre qu'a généré le conflit yéménite et qui va certainement se répercuter pendant très longtemps, car ce sont des sommes d'argent considérables et évidemment les nouveaux gagnants d'aujourd'hui n'ont pas envie de voir une paix qui leur enlèverait, j'allais dire, leur capacité de prédation et de s'enrichir. Donc l'ONU a vraiment
beaucoup de travail,
un gros boulot.
Sonia Le Gourielec,
pour répondre à votre question sur les risques de déstabilisation possibles, alors si on va sur l'autre rive, se posent quand même beaucoup de questions de transition politique quand même de l'autre côté. L'Érythrée vient de sortir de son isolement international, néanmoins le régime est toujours très fermé en interne, donc se posent des questions de sciences politiques classiques. Est-ce qu'un État totalitaire peut de lui-même se sortir de son autoritarisme? Est-ce qu'on peut observer comme en Éthiopie ce que Jean-Nicolas Bach, Jean-François Paillard parle de décompression autoritaire? Comment la transition va-t-elle se faire? Est-ce qu'Isaias Afwerki va passer la main à son fils, à des militaires? Est-ce que les généraux seront d'accord? Il y a beaucoup de questions quand même, et donc ils ont une rive très importante sur la mer Rouge. Se pose aussi la question à Djibouti. Le président peut se représenter l'année prochaine ou dans 2 ans, donc il est là depuis 99. Et vous avez parlé tout à l'heure de conflits de personnes. Effectivement, on est dans une période où vous avez une pacification dans la région, et le pays qui se présentait comme un havre de paix, comme un médiateur régional, a été finalement mis un peu sur le banc de touche lors de tous les sommets de paix entre l'Éthiopie, l'Érythrée, la Somalie, etc. etc. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, derrière, vous avez une confrontation entre le président djiboutien et le prince MBZ,
aux Émirats.
Donc un affrontement personnel entre ces deux personnes, du fait aussi que l'un des principaux opposants au régime djiboutien est en exil aux Émirats. Et effectivement, l'année dernière, le port qu'avait construit DP World, donc une entreprise des Émirats à Djibouti, a été nationalisé. Donc vous avez un conflit commercial très fort entre les deux. Se pose la question de l'élection aussi en Éthiopie. Est-ce qu'Abiy va être élu facilement? Peut-être pas si facilement qu'on ne le croit. Et puis toujours, et là je laisserai la parole à Monsieur Prunier, la transition en Somalie.
Alors très rapidement, Gérard Prunier, en guise de conclusion.
Il n'y aura pas de transition en Somalie.
Voilà.
Mais la véritable catastrophe, dont notamment à Washington, les gens qui pensent ont vraiment peur, c'est l'Arabie Saoudite elle-même. On a tendance à oublier qu'il y a une disproportion énorme entre le budget et les capacités militaires. D'ailleurs, depuis 5 ans qu'ils se battent au Yémen, ils sont arrivés à quoi ? À rien. Et ils emploient non pas une armée, mais un paquet de mercenaires, dont beaucoup viennent d'Amérique du Sud. Alors, vous voyez, leur motivation est très discutable. Et c'est ça, la véritable peur. C'est l'Arabie Saoudite elle-même.
Merci. C'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Gérard Prunier, je rappelle que vous êtes consultant indépendant, chercheur émérite au CNRS et membre de l'Atlantic Council. Sonia Le Gourielec, maître de conférence à l'Université catholique de Lille, enseignante à Sciences Po et co-auteur avec Fatia Desieni d'une note de recherche de l'IRSEM sur Golfe et Corne de l'Afrique. Et François Frison-Roche, chercheur au CNRS, ancien directeur du projet Aide à la transition démocratique au Yémen au sein de l'ambassade de France. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Yael Co et Nathalie Laporte.